Bonjour et bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Plat au micro et Maurice Bolduc à la console. Voilà, bon ben on vous retrouve encore comme d'habitude avec des différents sujets et puis avec des invités aussi. En première partie d'émission, différents sujets à vous proposer et puis en deuxième partie d'émission, un invité Faris Firas Nasri, directeur des communications du Mail Montréal à Interculturel, va nous parler d'un très 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 beau spectacle. Restez à l'écoute, je vous reviens après la première pièce musicale. Sidney George et Jackie, Papa was a Rolling Stone, quel beau tube. Voilà, avant de d'avoir notre invité en deuxième partie d'émission. J'ai quelques petits sujets à aborder. D'abord, le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Voilà, l'avant-première de l'exposition « L'univers de Youssouf Karch, l'essence du sujet ». Ça va être le mardi 21 septembre à 10h. Pour ceux qui seront dispo, allez-y, ne ratez pas. Et bon, je peux vous rappeler l'adresse, c'est au 1380 rue Sherbrooke Ouest. Je dis bien Ouest, nous on a Sherbrooke Est. Voilà, en présence de commissaire Hilaire Goldfarb, commissaire de l'exposition et conservateur senior, collection et conservateur des maîtres anciens du BAM d'ailleurs. Et qui est ce monsieur là, Youssouf Karch? C'est un photographe canadien d'origine arménienne, né en 1908 et il nous a quittés en 2002. Reconnu comme le plus grand portraitiste du XXe siècle. Je ne dis pas XXIe siècle, du XXe siècle. Donc le musée des Beaux-Arts a reçu un don de la part de son épouse Estrelita Karch, 111 photographies admirablement conservé. Voilà. Donc ça va être présenté c'est l'avant-première comme je le dis, hein. Ça va être du 22 septembre l'exposition c'est du 22 septembre 2021 au 30 janvier 2022. Donc c'est l'exposition de l'univers de Youssouf Karch. L'essence du sujet est l'occasion d'aller découvrir ces célèbres portraits de personnalités immortalisées. Parmi lesquels il y a Mohamed Ali, il y a Ingrid Bergman, il y a Fidel Castro, il y a Winston Churchill, il y a Albert Einstein, il y a Gracien Sigelina, Glenn Cloud, Karen Klein, John F. and Jacqueline Kennedy, Nelson Mandela, Georgia O'Keeffe, Pablo Picasso et Pierre-Éliott Trudeau. Voilà, ce sont ces personnalités, quelques-unes comme ça. Bon, 111 quand même, c'est beaucoup, hein. Waouh. Ceux qui vont faire le déplacement, ils ont le plaisir des yeux, ça je vous le dis, hein. Voilà, c'est fait comme ça. L'avant-première, je le répète la date, je répète la date, mardi 21 septembre à 10h. Et l'exposition, c'est du 22 septembre 2021 au 30 janvier 2022. Voilà. Et puis, quelque chose d'intéressant qui vient de se passer aux Pays-Bas. Voilà, c'est en Hollande, hein, quand on dit les Pays-Bas, c'est là-bas quelque part, à Amsterdam et autres. Le pont de béton imprimé en 3D le plus long du monde. Voilà, moi je me suis dit, on peut imprimer n'importe quoi en 3D, mais des ponts en béton. La ville de Nimbeg, aux Pays-Bas, a inauguré sa structure le 8 septembre dernier, là, il y a quelques jours. Voilà. Elle a été imprimée dans une usine dédiée à l'impression en béton unique en Europe. Cela faisait 6 ans que l'artiste et designer néerlandais Joris Laarman travaillait à l'impression 3D de ce pont en acier. Waouh! Nommé MX3D, c'est son entreprise, hein, du nom de la société d'ailleurs, et impression grosse structure. Il a été mis en place fin juillet au-dessus du canal Oudejidge et dans le centre d'Amsterdam. Ça faisait long de 12 mètres pesant, ça c'est le premier, hein, la première réalisation, long de 12 mètres et pesant 4500 kg, c'est le premier pont du monde à avoir été construit en acier par impression 3D. Et là, dernièrement, ils viennent encore de nous donner, de nous faire découvrir encore une autre performance en la matière. Le plus long pont du monde imprimé en béton avec ses 29 mètres. 29. De 12, on passe à 29. La prochaine fois, ça va être 50, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, c'est des pistes cyclables, hein, qui sont dans les parcs pour permettre aux cyclistes de contourner, voilà, ces flaques d'eau. Alors, il faut mettre des ponts pour que les cyclistes puissent faire leur promenade dans ces parcs-là. En plein milieu d'Amsterdam. Ça a été inauguré le 8 septembre, là, destiné aux cyclistes. Ces 3 arches jambes un plan d'eau dans le parc, comme je viens de le dire. Le parc de Geologenstruk de Nimeg. Le premier pont de ce genre date de 2017. Il se trouve également là-bas aussi, dans le même pays. Je dis merci à ces grands artistes. Hein. Il s'agit d'une passerelle pour cyclistes. Matériaux bruts, réutilisables et sans rebut. Waouh, intéressant, hein. Hein, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Un pont en béton, voilà, imprimé en 3D. La structure de Nimeguem est en forme arrondie, c'est le, j'ai vu la photo, hein, à la radio, je ne peux pas vous montrer la photo non plus. Elle n'est pas à la télé, c'est l'œuvre du designer néerlandais Michiel Van der Klee. Je sais que j'ai mal prononcé, je ne parle pas hollandais. Il a collaboré avec l'Université des technologies d'Eindhoven dans le cadre d'une orientation plus globale de l'autorité gouvernementale, qui est chargée d'ailleurs des infrastructures publiques, à savoir construire des ponts dans des matériaux bruts réutilisables, ce qui est le principe d'ailleurs de l'impression 3D ou fabrication additive. Voilà. J'aime bien cette expression aussi. L'impression 3D ou fabrication additive, c'est-à-dire qu'on ne retire pas de matière, on en ajoute au fur et à mesure qu'on avance, que l'artiste fait son travail. Ça, c'est très intéressant. Donc, le pont a été imprimé en une trentaine de parties séparées. Voilà. Il a commencé en avril 2019. Ça devrait être achevé en septembre, mais a pris du retard quand même. Pandémie oblige. Hein. Les opérations ont été menées à Eindhoven, mais dans l'usine d'impression 3D de béton que Saint-Gobain, Bermix et BAM ont ouvert la même porte ailleurs, la première en Europe. Le pont a été imprimé. Oui, chacune des parties séparées nécessitait une journée de travail. Chacune des parties nécessitait une journée de travail. Le béton est appliqué couche après couche. Mais comme souvent en impression 3D, il ne s'agit pas de couches pleines et uniformes de matériaux, mais des structures qui sont maillées dans les bandes de béton autour de petites parties laissées vides qui mesurent 8 cm de large. Et puis les différents éléments ont ensuite été assemblés et tenus ensemble par des câbles en acier pour les rendre résistants, pour les mettre ensemble, pour pouvoir donner forme à ce pont béton de 29 mètres. Il y a une série de tests qui ont été effectués en laboratoire pour prouver la résistance, pour voir si vraiment les cyclistes ne vont pas le faire tomber. Ouais, on ne sait jamais, ouais, parce que ça roule à vélo là-bas à Amsterdam, mais on ne sait jamais si les cyclistes vont le faire tomber ou pas. Donc, ils se sont dit, bon, on va le tester plusieurs fois, si ça résiste, et mesurer l'effet des contraintes aussi, détecter d'éventuelles fissures d'ailleurs, et de déformations. Non, ça n'a pas été le cas, tout était parfait. Donc c'était résistant, donc ils l'ont monté, ils l'ont inauguré, plusieurs autres sont envisagés ailleurs aux Pays-Bas. Je pense bien que d'autres pays vont prendre exemple. Voilà, les petits cours d'eau, s'il y a des pistes cyclables qui sont dans les environs. Et je serais bien curieux de savoir comment ils vont s'arranger pour pouvoir faire des genres de ponts en béton comme ça pour les véhicules. Pour l'instant, c'est pour les cyclistes. Voilà. Et puis, on verra bien. Bon, d'abord, voilà, pour les automobiles, pour les voitures, on verra bien ce que ça va donner. On va en musique.
Yeah, yeah. Oh, oh, oh. I remember when we used to sit in the government's yard in Trenchtown, over observing the hypocrites, mingling with the good people we meet. Good friends we have, good friends we've lost along the way. In this great future, can't forget your past, so dry your tears, I say. No woman, no cry. No woman, no cry. Little darling, shed no tears, no one.
shot in trench time, trench time. And then the Georgia would make the fire lights. I say love would burn in fire through the nights, through the nights. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you, with you. My feet is my only, my only carriage, and so I've got to push, push, push on.
Je vous le dis tout de suite, c'est un musicien de jazz. C'est une version de No Man No Cry en version jazz. C'était pas son idée à lui, c'est un de ses amis là, grand musicien de jazz, un ami à Bob Marley qui avait mis tout un album de Bob Marley. Donc il a fait appel à ses amis musiciens de jazz. Chacun prend une pièce sur l'album et puis fait avec ce qu'il voulait avec ça. Très beau produit d'ailleurs. Et ça, c'est la version de Jonathan Butler, No Woman, No Cry. Il a plusieurs versions aussi, d'autres en live, qui sont d'autres versions en live qui sont plus longues que ça, quoi. Voilà. Alors, on va rester en technologie, là, en informatique. Il y a quelque chose qui, dont je dois parler ici. Les logiciels de recrutement et de tri automatisé de CV éliminent injustement des candidats et des talents cachés. Voilà. Il s'agit bel et bien des fameux algorithmes. Comme vous le savez, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec Facebook depuis quelques années. Facebook décide qui a le droit de voir les posts des amis sur Facebook? Tu ne peux pas tout voir maintenant. Un certain nombre d'amis qui passent maintenant inaperçus, sous silence. C'est comme si vous n'étiez plus amis sur Facebook. Tu ne vois plus leurs posts, plus rien. Voilà. C'est les algorithmes qui le décident. Alors, avec ces outils qui répondent à des critères d'ailleurs strictement définis, la marge d'appréciation ou d'interprétation du recruteur n'a plus sa place, c'est-à-dire l'être humain. Voilà, pour les entreprises qui ont beaucoup de candidatures quand il y a un poste vacant, ce sont les algorithmes qui ont pris la place de l'être humain maintenant. Utilisé par 75% des entreprises américaines, 75% c'est beaucoup, hein. Les systèmes automatisés de tri des CV a amplifié le phénomène de talents cachés. C'est-à-dire qu'ils sont des gens complètement oubliés d'ailleurs. Donc les algorithmes éliminent des candidats selon des critères mal adaptés à la réalité. C'est bien beau l'avancée de ces histoires d'algorithmes, mais ça ne pourra jamais, selon moi, ça ne pourra jamais remplacer l'être humain dans un bureau de ressources humaines qui fait les tri des CV, appelle les gens, entrevue téléphonique et puis rencontre personnelle. On fait une rencontre personnelle quand on est convaincu par l'entrevue téléphonique. Sinon quoi, le CV il est mis à côté carrément. Merci beaucoup. On vous reviendra s'il y a un autre poste qui correspond à vos compétences. Voilà, c'est comme ça. Un algorithme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une suite finie d'opérations ou d'instructions. On peut donner, qu'il est terminé de manière ou non ambigu et permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Ils sont programmés sous la forme de logiciels informatiques omniprésents dans le monde numérique, comme je viens de donner l'exemple de Facebook. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme synonyme? Calcul, méthode, procédé, procédure, bien sûr. C'est un ensemble de règles opératoires propres à un calcul, suite de règles formelles. Donc, à partir du moment où voilà, ils reconnaissent pas les mots clés à la base, c'est fini. Le candidat il est complètement écarté. Alors quand vous faites vos CV, il faut aller chercher le mot clé dans l'annonce, qui a été faite. Sinon vous êtes complètement écarté, quoi. Ça c'est triste, mais c'est une réalité. C'est le côté néfaste, le côté triste, sombre de ces algorithmes qui sont en train de remplacer les humains dans les bureaux de ressources humaines parce qu'ils reçoivent trop de CV. On va en musique pour terminer la première partie de cette émission. Oui, Grand Corps Malade avec la complicité de Sandra Nkake, Juste Manqué.
Éviter une rupture déchirante et violente. Pas besoin de se haïr pour passer à la page suivante. Les belles histoires font des souvenirs et on a les nôtres. Mais aujourd'hui, faut se le dire, on est défaits l'un pour l'autre. L'amour est parti, on ne fait pas semblant. Tout n'est que nostalgie, je t'aime en noir et blanc. Plus besoin d'entendre ta voix, je dis pas ça pour provoquer. Et pourtant, au fond de moi, je veux juste te manquer.
Now the curtain is down. Got my knees on the ground. I'm begging for your love. Sadness is gone. Keep on looking ahead, far away from my bed. My tears dried up on their own. But I want you to know I just want you to miss me. Just want you to miss me. So you can feel my pain. I just want you to miss me. Just want you to miss me. So I won't be.
Se glace et efface-les encore. Quand tous nos face à face deviennent des torts à tort. Faut savoir arrêter, je te souhaite même du bonheur. Pas envie de pleurer, j'ai juste un chagrin d'humeur. On se fait une double peine, l'amour était en sursis. Et la sentence est ferme, j'ai pris un an avec souci. Il nous fallait un terme, l'avenir ensemble était bloqué. Mais au fond de moi quand même, je veux juste te manquer.
We said goodbye for the last time. I couldn't stand the road tight. Storm is blowing in the deepest meanders of my soul. Keep on walking my way, far away from you. My heart is beating again, but I want you to know I just want you to miss me, just want you to miss me. So you can feel my pain,
Que ce soit bien, mais je veux être un peu plus qu'un souvenir dans ton futur quotidien. En fait, j'aimerais te pincer le cœur à chaque fois que tu me revois à tes côtés. Je veux juste te manquer.
Avec la complicité de Sandra Nkake, juste manqué. Restez à l'écoute, on vous revient pour la petite pause publicitaire avec notre invité Firas Nasri, directeur des communications du MAI Montréal Interculturel. Voilà, allez, à tout de suite, restez à l'écoute.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Where the beautiful people at?
She's a wonderful thing. Jealousy and dark times. through with a big fat chain on my neck. Little did they know, no sweat, so I dimmed out, rimmed out, and cracked the glass. 25 pounds, can you match that bag? Cause if not, raise up, I got a deal to make. And a couple bad bitches I've been aching to break, waking to bake. I put the cake on the plate, jealousy in me, or we making a day. I'ma vibe with this, Hollywood nigga, I'ma survive this shit. I do that, did that, throw your fucking wig back. Gorilla, gorilla, who loves going here? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'm a lion in the dog pound. Now how that sounds?
Hollywood is alright. Hollywood is pretty good. Jealousy is done for. It makes you go.
She's a wonderful thing.
Jealousy is no time. Sinking on the river. There's more to love than that.
Avec la complicité de Snoop Dogg, Jenny Principal. Voilà, notre invité est déjà avec nous au téléphone. Il n'est pas avec nous en studio, mais c'est comme si c'était en studio, il va nous parler. C'est le directeur des communications du MIS et du Montréal Art Interculturel. C'est pour nous parler de la grande danseuse Maria Kefirova. Oui, elle n'est pas que danseuse, hein. On va aller dans les détails un peu plus tard. Bonjour, Firas Nasri.
Bonjour.
Je pourrais dire bonjour, monsieur le directeur des communications. Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Je vais bien, merci. Merci d'avoir le temps de, venir nous parler de cette danseuse.
Ah, ça fait plaisir,
Et je suis allé voir un peu ce qu'elle fait. Je dis, mais waouh, ok. Mais, et puis, on va la découvrir. Et puis, moi, je ne l'ai jamais vue sur scène. Ce serait une opportunité de ne pas rater sa présence là, dans les locaux du MED d'ailleurs. Alors, parlez-nous un peu de cette dame, ou bien on va parler un peu de cette dame et puis on va revenir un peu des fonctions même, des fonctions principales du MET.
Oui, oui. Maria Kefirova, c'est une danseuse qui performe à Montréal depuis longtemps. Ce spectacle-là, elle l'a imaginé, je pense, au départ, elle avait l'idée d'un peu recréer l'ambiance qu'on pourrait retrouver dans un hammam turc ou dans l'Empire ottoman, où est-ce que tous les sens du corps seraient émerveillés par les bruits, par toutes les sensations. Alors c'est le genre d'effet qu'elle veut recréer dans son spectacle solo Backs, Boxes, Towels.
Oui.
Il y a le son, il y a la danse évidemment, il y a le mouvement, il y a toutes sortes de bruitages qui vont venir chercher le spectateur dans ses sens.
Ouais, c'est ce que dans ce que j'ai reçu comme communiqué d'ailleurs. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit waouh, mais comment elle arrive à... De toute façon, vous n'allez pas nous dévoiler tout ici. Il va falloir se déplacer pour aller voir ce qu'elle fait découvrir au public. Alors, comment la rencontre s'est faite avec elle? Comment le MET a pu la rencontrer?
Je pense que Maria gravite autour du MET, autour de la scène depuis un moment. Malheureusement, c'est pas le directeur des communications qui qui décide c'est qui va performer au MET pour la saison.
C'est votre directeur de programmation.
Ouais, exactement. Ça, ouais. Oui. Le directeur artistique. Malheureusement,
artistique,
c'est pas
oui.
Les personnes aux communications qui s'occupe de ça, mais je pense que c'est une personne qui gravite dans les cercles de danse à Montréal et autour du MET depuis assez longtemps, et je pense que c'est quelqu'un qui connaît le directeur artistique du MET, Michael Toppings, depuis depuis un moment.
Depuis belle lurette.
Ouais. Par contre, étant donné tout ce qui se passe avec la pandémie, tout ça, et les capacités d'accueil du mai qui ont été réduites pour pouvoir respecter tous les règlements qui sont en place.
Oui.
Je pense qu'on est déjà sold out pour Maria.
Ah bon?
Étant donné que les capacités sont réduites, je pense qu'on est sold out.
Vous êtes à 50% ou bien 75%?
Exact. Donc, vos auditeurs peuvent quand même aller voir sur notre site web s'il reste des billets. Je pense qu'il en reste peut-être quelques-uns, mais je pense pour demain soir, il se pourrait qu'il en reste quelques-uns, mais on est, je pense, pour les autres soirs, sold out.
Oui,
mais on peut quand même discuter de Maria et du reste
demain,
de la
saison. Demain, c'est la première soirée.
Exactement, ça, oui.
Oui. Pourquoi vous ne faites pas ça en version hybride?
Vous savez, je pense que les artistes, ils préfèrent créer l'expérience qu'ils ont imaginée, de la façon qu'ils l'ont imaginée. Mmh. Et autant que possible, je pense que les artistes du mai, en tout cas cette saison, veulent éviter la diffusion web autant que possible.
La proximité, la complicité, l'intimité. Oui.
Mmh. Ouais. Oui. Par exemple, Maria, je ne veux pas trop l'en dévoiler. Comme je vous ai dit, reste, je pense, encore quelques billets que vos auditeurs peuvent aller chercher, mais le son, le bruitage, tout ça, c'est très important dans le spectacle de Maria.
Oui.
C'est pas quelque chose qu'on est capable de recréer durant une diffusion web.
Oui, c'est un craquement. Box Stowell. Comment on peut traduire ça en français? Non, je sais pas.
Les dos, les boîtes et les serviettes.
Les serviettes, ouais.
Dos, boîtes, serviettes.
Boxes. Towel. Ça a commencé comme une recherche de sensations. Elle dit, je voulais créer une performance qui offre un espace similaire à un bain public. Un endroit où l'on peut sentir son corps détendu, se dissoudre dans la chaleur brumeuse. Se purifier, fusionner ces molécules avec celles de l'environnement. Cependant, je n'excluais pas le déploiement d'un autre type d'espace, plutôt comme les steppes mongoles où l'on pourrait voyager, écouter, s'étonner, se débarrasser des habitudes perspectives et trouver un remède à la tension surexploitée. C'est elle qui le dit. Hein.
C'est très vendeur comme texte.
Oui.
Ça fait voyager, je trouve.
Oui. Vous avez eu une avant-première, vous?
Elle se passe ce soir, en fait, l'avant-première.
Oui.
Et la première demain soir.
Oh, la première demain
encore,
soir.
J'ai assisté à quelques petits trucs, quelques petites scènes, mais l'avant-première, c'est ce soir.
Ok. Merci. Alors, on a encore 2 minutes là pour cette première partie de l'entrevue. Il faut qu'on en parle parce que c'est effectivement. Donnez-moi le mai au fait. On va aller en longueur sur le mai aussi. Le mai, c'est quoi? Qu'est-ce que fait le mai au fait?
Le mai, c'est plusieurs choses. Montréal, art interculturel. Moi,
oui.
J'appelle ça simplement un centre artistique.
Oui.
On a un théâtre, on a une salle d'exposition, on est un diffuseur. Notre saison, c'est un mélange de danse, de théâtre, de musique, de performance en tout genre. On a un spectacle de drague.
Oui.
Sous le thème de l'expression multiculturelle et le mélange des formes d'art.
Oui. Oh, bravo à toute l'équipe. Hein. Je veux pas dire bravo seulement au directeur des communications.
on a une saison super super intéressante, toutes sortes de formes d'art. Cette année, c'est spécial. La plupart des artistes viennent du Québec ou du reste du Canada, étant donné que faire venir des artistes internationaux, c'est pas trop possible. Mais
pandémie, la maudite pandémie. Permettez-moi, hein, je suis désolé, chers auditeurs auditrices, la maudite pandémie. Ouais.
Exactement ça. Ouais.
Oui.
Mais vous pouvez découvrir le reste de la saison sur notre site web mai.qc.ca.
Oui. Ok. On va faire une petite pause musicale et puis on revient pour aller un peu plus en détail sur tout ce que vous faites là-bas au sein du mai du Montréal à interculturel.
Génial.
Merci.
to. You I want in this life in the next one. Tell you what you want. I just soon come, girl, I won't be late. It's only you, the girl of my life. Get out the way, fell out with this love, baby, I didn't go blind. The food in the wind.
Saxophoniste Susie Aize avec la complicité de DJ Maphorisa. Only You, jeune saxophoniste qui a beaucoup d'avenir, hein, très jeune, originaire de Namibie. Voilà, on va continuer avec notre invité, le directeur des communications du MAI, Montréal Art Interculturel, qui a été fondé, si je me rappelle bien, selon mes documents ici, en 1999.
Mmh, exactement ça. Voilà. 23e saison.
Oui, 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 oui. Bravo. Bravo à toute l'équipe. Vous mettez de l'avant des pratiques hybrides et innovantes de danse, théâtre, et puis un peu de tout. Comment se fait souvent la programmation? Vous n'êtes pas le directeur, le responsable artistique, mais est-ce que c'est... Au fait, il faut savoir que vous ne faites pas de festival. C'est vous, c'est toute l'année quoi, que vous recevez les artistes.
Notre programmation, elle commence en fait demain, comme on disait, avec Maria Kaferova.
Oui.
Et elle se termine autour du mois de mai. Alors on a 19 productions tout le long de l'année jusqu'à l'été prochain. Disons, c'est toute la saison. Elle commence maintenant, elle se prolonge jusqu'à le début de l'été prochain.
Oh,
et
oui.
Pendant l'été, nous on est fermé, on laisse l'espace aux,
c'est normal.
Aux autres festivals.
Oui, oui. Après tout ce stress, il faut se reposer un peu.
Ouais.
C'est ça, ouais. Jusqu'au mai 2022. Waouh.
Mm-hmm.
Bon, très bien rempli.
Ouais,
oui.
La programmation, elle se fait en fait, les artistes peuvent répondre à un appel à participation et ils envoient leurs documents, ils envoient l'œuvre qu'ils ont envie de présenter ou le spectacle qu'ils ont envie de présenter.
Et vous avez un comité de sélection.
Pardon?
Et vous avez un comité de sélection.
On a un comité de sélection, mais souvent c'est les artistes qui finissent dans la programmation, c'est des artistes qui gravitent autour du Mai, qui ont participé à des programmes d'appui du Mai. C'est des gens qui gravitent autour de nous.
Oui.
Et après aussi il y a des artistes qui viennent d'ailleurs du reste du Canada ou du monde, et ça c'est plus des gens qu'on découvre et qu'on veut faire découvrir aux gens de Montréal.
Oui. Waouh, bravo à toute l'équipe. Ça, je ne cesserai pas de le dire. Moi, je me suis dit, c'est. J'aurais aimé aller voir ce. Tout est complet, hein. Tout est complet pour demain, pour voir cette jeune dame, Maria Kefirova, je ne vais pas me tromper de nom.
Ça, oui.
Elle ne fait pas que danser et réalise des performances, des installations et des vidéos. Se produit, écrit, fait des recherches, donne des conseils même artistiques. Wow!
C'est une artiste.
Ouais, elle est complète.
Elle est complète, ouais.
Oh, ouais.
À la sortie du théâtre, les spectateurs sont invités à voir son exposition. Il y a une exposition dans notre galerie. Mm-hmm. Pour continuer l'expérience, une fois qu'ils sont sortis du théâtre, il y a une galerie où les auditeurs, les spectateurs peuvent continuer à voir ses œuvres et tout ça. Ouais, c'est une artiste quand même assez complète, en effet.
Oui. Elle doit faire des jaloux, hein. Et puis, son intérêt pour la corrélation entre les réalités internes et externes et puis le rôle du corps humain en tant qu'interface entre les deux est au cœur du nombre de ses œuvres. Elle en a fait, hein. Le Natch Cracker Corporation, Gold Meat Manufacturing Tears. Waouh. Vous savez, je suis un amoureux de la danse, hein. J'adore les danseurs, les chorégraphes en général, que ce soit femme, homme. J'aime voir, comme on dit souvent, c'est pas, ça vient pas de moi, la danse c'est la poésie du corps, hein. Oui. Alors, comment vous voyez l'avenir du Mai?
C'est une bonne question, ça. J'espère qu'une fois que la pandémie sera passée, on pourra continuer à aller chercher des artistes qui viennent de loin.
Ne me faites pas rêver.
Écoutez, il faut rêver. Vous me demandez, moi je vous réponds.
D'accord. Encore faites-moi rêver. Pour la fin de la pandémie.
moi je veux qu'on puisse aller chercher des artistes qui viennent d'ailleurs, qui viennent de cultures qu'on connaît pas trop ici, gens qui pourraient pas par eux-mêmes exporter leur art, des gens, voyager à travers l'art d'autrui, comme on l'a fait par le passé. Par le passé, on est allé chercher des artistes du Liban, de Palestine, de plein d'endroits.
Oui, pour pouvoir se frotter à nos artistes locaux, quoi.
Exactement ça, oui. Voilà, c'est ça qui, pour moi, crée un peu de magie. Cette année, on a pu aller chercher des artistes qui viennent de Colombie-Britannique. C'est des gens qu'on connaît pas trop ici, mais reste que c'est des Canadiens.
Oui.
Moi je verrais bien le futur du Mai pouvoir aller chercher plus loin et finalement c'est ça, plus trop travailler avec les frontières, mais essayer d'aller voir plus loin, de faire découvrir des choses au public montréalais qui vient d'ailleurs.
On est bien gâté à Montréal, c'est une ville culturelle quand même. On vit dans la culture, on vit avec la culture, on s'habille avec la culture, on voit la culture tout le temps. Alors pour terminer, ça se passe où? Oui, c'est redonner la date et puis le lien en même temps. Et puis ça coûte combien cette histoire là? C'est la dernière minute. Donnez-nous tout ça, toutes ces petites infos là.
Les spectacles de notre saison sont à 28 $, à part les spectacles de musique. On a quand même quelques spectacles de musique. Le centre est situé tout proche du parc Jeanne-Mance, au coin des rues Jeanne-Mance et Despins.
Oui.
On est juste en bas de la montagne.
Oui.
Les étudiants ont accès à des billets à prix réduit.
Oui.
Et vous pouvez découvrir toute notre belle programmation sur le mai.qc.ca ou sur le mai sur Facebook ou Instagram.
Oui.
Comme je vous ai dit, on a des spectacles de musique, de danse. On aura un spectacle de drag, du théâtre, du mouvement. Tout ça, vous pouvez découvrir tout ça sur notre site web.
Ouais. Merci beaucoup, Firas Nasri, directeur de la communication.
J'ai adoré votre musique.
Oh, ah bon, d'accord. Je vous dis merci. Et puis bon, ben, au plaisir de se revoir, de se voir là-bas. Moi, je vais faire un effort pour y passer quand même.
C'est génial. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Bye bye. Oui.
Or, ça vient du Sahel directement. Voilà, merci à toi Maurice Bolduc. Et puis on dit merci à notre invité Firas Nasser, directeur des communications du Mai Montréal à Antique Culturelle, qui avait nous parlé de l'artiste Maria Kefirova. Allez, ça commence demain jusqu'au 18 septembre. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de votre fidélité. Voilà, on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et je vous dis ciao.